sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Appelez-nous, exprimez-vous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le nouveau règlement de la Confédération africaine de football. C'est une décision, disons-le, révolutionnaire. Et oui, la limitation du nombre de mandats du président de la CAF. Il ne pourra plus exercer ses fonctions plus de 3 mandats successifs, 3 mandats de 4 ans. La Confédération africaine s'aligne donc sur les nouveaux statuts de la FIFA. Mais le problème, c'est que cette mesure n'est pas rétroactive. Alors, est-ce véritablement un problème ou pas, ça sera évidemment l'objet de notre débat, mais du coup, rien n'empêche aujourd'hui Issa Hayatou d'être candidat à sa propre succession. Il est en poste tout de même depuis 28 ans. Il pourra donc, s'il le souhaite, briguer 3 nouveaux mandats et rester donc en fonction jusqu'en 2029. Alors, que vous inspire ce scénario? Comment expliquer finalement la longévité d'Issa Hayatou à la tête du football africain? Le sujet vous passionne. Je vois déjà le nombre de réactions sur la page Facebook de l'émission. Continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, mais aussi au standard, on vous attend, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Amaïbé nous appelle de Mopti, au Mali. Bonjour Amaïbé.
Bonjour Van, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous avez des questions concernant les soupçons sur le financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy.
Oui, un carnet vient d'être prouvé, le financement de la campagne de l'ex-président français Nicolas Sarkozy par l'ex-président libyen Kadhafi à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Où en est-on sur l'enquête de ce financement de la campagne de Nicolas Sarkozy? Et ce carnet peut-il permettre à la justice française d'avancer sur cette affaire?
Alors, ce sont nos confrères du site d'investigation Mediapart qui ont révélé il y a quelques jours qu'un carnet de notes attestant de versement de plusieurs millions d'euros à Nicolas Sarkozy par des dignitaires du régime Kadhafi a été remis récemment à la justice française. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
Journaliste au service Écho des RFI. Cela fait maintenant plus de 3 ans que la justice française enquête sur ces soupçons.
Oui, les policiers et le juge d'instruction Serge Tourner enquêtent sur des soupçons de financement par le régime de Muammar Kadhafi de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. On se souvient que c'est Mediapart, déjà, qui avait révélé l'affaire au printemps 2012. Un an après, le parquet ouvrait une information judiciaire contre X. Nicolas Sarkozy est mis en cause ainsi que son entourage. C'est le cas des hommes qui ont accompagné l'ex-président lors de ses voyages en Libye avant la guerre de 2011. Ainsi, l'ex-ministre de l'Intérieur de Sarkozy, Claude Guéant, est mis en examen pour avoir reçu, lui, 500 000 euros du bras droit de Kadhafi, l'incontournable Bachir Salé.
Claude Guéant, qui est le seul pour l'instant à être mis en examen dans le cadre de cette affaire, et lui justifie ces fameux 500 000 euros par la vente de 2 tableaux, ce qui n'a pas convaincu les
Tout
enquêteurs.
À fait. Bachir Salé, dont il est question dans cette affaire, un temps réfugié en France, puis exfiltré en catastrophe dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012. Il serait aujourd'hui exilé en Afrique du Sud. Incontournable, Bachir Salé, car avant 2011, il est le principal interlocuteur des Français en Libye. Il a une qualité appréciée, il est francophone et il a l'oreille du guide libyen à l'époque. Il est son bras droit et il est à la tête du principal fonds souverain et c'est lui qu'on soupçonne d'avoir planifié le financement libyen. Mais il échappe à la justice comme tous les autres acteurs libyens. L'ancien chef des renseignements extérieurs Moussa Koussa, réfugié dans le golfe arabique, Mahmoud El Bardadi, l'ex-premier ministre, Abdallah Senoussi, l'ex-chef des renseignements intérieurs, Saif al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi, tous les 3 emprisonnés en Libye, pays, on le sait, dépourvu d'une autorité centrale avec qui la justice française pourrait éventuellement traiter, mais plusieurs de ces personnes ont évoqué dans des déclarations publiques ou non le financement par la Libye de la campagne présidentielle de Sarkozy.
Et d'ailleurs, effectivement, rappelons-le, c'est le fils de Muammar Kadhafi qui, le premier, avait lancé cette affaire en déclarant que son père aurait versé de l'argent à Nicolas Sarkozy. Intéressons-nous, Abla Jounaïdi, à ce fameux carnet de notes qui a donc été remis à la justice française, carnet que nos confrères ont pu consulter.
C'est ça. Pour Mediapart, qui donc dit avoir accédé au contenu, c'est clair, c'est une preuve accablante. L'histoire de ce mystérieux petit carnet est assez folle. C'est un vrai roman d'espionnage. En fait, il appartenait à Chokri Ghanem, l'ancien ministre du pétrole dans les dernières années du régime Kadhafi, un homme très influent donc, mais qui avait pris ses distances avec le régime juste après le déclenchement de la guerre de 2011. Ghanem est mort en 2012 dans des conditions troubles à Vienne, en Autriche, où il s'était exilé.
Il a été retrouvé noyé dans le Danube.
Voilà, un vrai roman d'espionnage. Donc, son carnet a été retrouvé chez son gendre aux Pays-Bas par la police norvégienne. Il a été utilisé dans le cadre d'une enquête sur une vaste affaire de corruption impliquant un géant du pétrole en Norvège et les Libyens. Vu son contenu, les magistrats norvégiens l'ont transmis à leurs confrères français. Et pour Mediapart, il est explosif car il comporte des noms, des chiffres. Ghanem y aurait consigné le récit d'une réunion en 2007 avec Mahmoudi El-Baghdadi, l'ex-premier ministre, et Bachir Saleh, encore lui, l'argentier du régime libyen. À l'issue de cette réunion, donc en 2007, d'après Mediapart, trois versements auraient été actés, émanant de Bachir Saleh, mais aussi de Saif al-Islam Kadhafi et de l'ex-chef des renseignements libyens Abdallah Sinoussi, pour un montant total, donc on l'a dit, de 6,5 millions d'euros au profit de l'équipe de Nicolas Sarkozy. On est alors en pleine campagne électorale en 2007. Pour les journalistes d'investigation de Mediapart, donc, si ce document est versé au dossier d'instruction, il peut tout faire basculer. Il date de 2007, au moment où les relations avec la Libye sont au beau fixe. Ce ne serait donc pas un faux monté de toutes pièces par le régime de Kadhafi pour se venger finalement après l'intervention française de 2011. Ce carnet, d'après le journal Le Monde, serait bien aux mains de la justice française aujourd'hui. De quoi donner des sueurs froides à Nicolas Sarkozy, qui est déjà empêtré dans plusieurs autres affaires judiciaires, même si celle-ci a des ramifications internationales, contrairement aux autres.
Ouais, Nicolas Sarkozy qui affirme que toute cette affaire n'est qu'une machination du régime Kadhafi pour se venger de l'intervention française en 2011. Fin de citation. Merci beaucoup à Blaise Jonaïdi d'être venu répondre à Amaïbé qui nous appelait de Mopti, 10h16 à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction d'RFI pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Avec nous au standard, Reagan, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions, Reagan, concernant l'élection du futur secrétaire général de l'ONU.
Oui Juan, le mandat de Ban Ki-moon expire le 31 décembre de l'année en cours. Du coup, 10 candidats sont en liste pour sa succession. Quels sont les critères d'éligibilité? Ensuite, on voit très bien qu'Antonio Guterres, l'ancien premier ministre portugais, est en tête au terme du cinquième tour des élections. Quelles sont ses chances pour qu'il soit élu définitivement?
Ah, Antonio Guterres sera-t-il le prochain secrétaire général de l'ONU? Bonjour Sophie Malibaud.
Bonjour, bonjour Reagan.
Vous êtes
bonjour
journaliste au service international des RFI. On vous retrouve également tous les dimanches à la présentation de l'émission internationale en partenariat avec TV5 Monde et Le Monde. Alors effectivement, le processus de désignation a commencé. Il y a déjà eu 5 tours de scrutin. 10 candidats sont en lice. En quelques mots, quels sont les critères pour être élu?
Oui, alors c'est pas tout à fait une élection quand même.
C'est une désignation.
C'est une désignation. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que le consensus soit trouvé entre les 5 membres du Conseil, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que ce Conseil de sécurité, vous savez qu'ils sont 15 membres, mais il y en a 5 qui ont un droit de veto, ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne. Donc, si l'un de ces cinq-là n'est pas d'accord sur le nom qui sort, qui est tiré du chapeau, ça ne peut pas se faire. Donc, il faut qu'il y ait un consensus. Je tiens à noter que pour la première fois cette année, il y a un peu moins d'opacité que d'habitude.
C'est d'abord, un peu plus transparent.
Un petit peu plus transparent. D'abord, on a des candidats déclarés. Il y en a certainement d'autres en coulisses. Il y en a d'ailleurs une qui vient de sortir, qui vient d'arriver sur le devant de la scène. Donc elle n'a pas fait les 5 autres tours de scrutin précédents. C'est la première fois qu'on va voter ou pas pour elle. Donc voilà, j'en étais là. Donc c'est pas tout à fait une élection.
Et vous disiez qu'il y avait effectivement une certaine transparence cette fois-ci, voilà. Puisque jusqu'à présent, on ne connaissait même pas le nom des candidats, on ne savait même pas quand commençait le processus de désignation.
C'était du lobbying en coulisses.
Voilà, aujourd'hui, c'est évidemment un peu plus transparent.
Ce qu'il y a de plus transparent aussi, c'est qu'il y a des audiences. Donc, ils passent devant les délégués de l'Assemblée générale de l'ONU, et donc,
il y a eu un grand oral.
Voilà, il y a un grand oral, et donc, là, il y a eu quelques surprises. En
fait. Alors, il y a déjà eu 5 tours de scrutin. Le prochain tour est prévu aujourd'hui même.
Exactement.
Alors, effectivement, António Guterres, ancien président du Portugal et ancien haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est arrivé en tête jusqu'à présent.
Oui. Alors, c'est le seul qui a réussi à faire au moins 9 voix favorables. Mm-hmm. Donc, il se détache nettement. Simplement, au dernier scrutin, il y a eu 2 voix, ce qu'on appelle des découragements. Vous savez, en fait, c'est pas pour ou contre, c'est on encourage ou on décourage ou on ne se prononce pas. Il y a eu 2 voix de découragement, donc négatives tout de même. Et sans être... On ne sait pas si ce sont des voix qui portent un veto potentiel. Parce qu'on ne sait pas jusque-là si ce sont les membres permanents qui ont été défavorables.
Parce que le vote est secret.
Voilà, le vote est secret. Et jusqu'à présent, tous les bulletins se ressemblaient. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être différent. Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir distinguer ceux qui... Il y aura une couleur différente pour les bulletins des membres permanents. C'est-à-dire qu'on saura s'il y a un nom qui vient d'un bulletin rose, on saura, oh, ça c'est un nom vraiment embêtant parce que ça peut vraiment valoir ultérieurement veto.
Ouais. Et s'il y a veto, le candidat en question ne peut pas être désigné.
Oui, alors, à ce stade, pas encore, puisque c'est pas encore un veto, donc il peut y avoir encore des tractations, des marchandages. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que si, par exemple, aujourd'hui, il n'y avait aucun bulletin rose pour Guterres, là, il aurait vraiment de fortes chances.
Guterres, en tout cas, pour l'instant, il est en tête. On verra effectivement tout à l'heure dans la journée si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité exerceront leur droit de veto. Vous souhaitiez rajouter quelque chose ? On me dit que Reagan a d'autres questions.
Ah oui, bon, bah alors attendez, j'attends les questions de Reagan.
Alors, Reagan, on vous écoute.
Oui, mais du coup, je ne comprends pas pourquoi la Bulgarie propose une nouvelle candidature, celle de Kristalina Georgieva, en lieu et place de Irina Bokova, directrice de l'UNESCO, jusque-là soutenue par la Bulgarie. Pourquoi, comment expliquer ce changement de position?
Ça, c'est le coup de théâtre, tout de même.
Exactement. Alors, c'est intéressant. C'est parce que ce que j'allais vous dire justement, c'est que cette fois-ci, il y a eu aussi un vœu qui a été exprimé assez largement, que ce soit une femme, parce que depuis 70 ans, c'est toujours un homme. Et aussi, et les Russes y tiennent beaucoup, que ce soit quelqu'un de l'ancien bloc de l'Est. Et donc, voilà pourquoi la candidature Bokova était aussi bien vue, parce qu'elle est à la fois de Bulgarie et une femme, voilà. Et soudainement, mais ça a été par des pressions se sont exercées manifestement sur la Bulgarie pour qu'ils mettent une autre candidate en tête, parce que Bokova d'une part n'a pas fait une très bonne performance devant l'audience à son grand oral, elle a un peu échoué, donc elle est arrivée quand même assez bas sur la liste. Et d'autre part, manifestement, il y en a qui pourraient s'opposer. Bokova est ressentie comme étant plus adoubée par la Russie. Il se trouve que donc Angela Merkel a poussé manifestement la Bulgarie. Ça s'est passé en septembre lors du G20 à Pékin. Merkel manifestement poussé un petit peu Georgieva sur le devant de la scène.
Angela Merkel, qui est donc allemande, et l'Allemagne n'est pas du tout membre du Conseil permanent de l'ONU.
Non, donc mais il y a des tractations. Il n'y a pas que Angela Merkel, c'est qu'il y a aussi la Commission européenne, parce que Georgieva, elle, était vice-présidente de la Commission européenne. C'est une candidature manifestement poussée par les milieux de la droite européenne. Voilà, contre Bokova.
Mais Georgieva, justement, elle est membre de la Commission européenne, elle a fait partie de ceux qui ont milité, plaidé pour des sanctions européennes contre la Russie, donc forcément les Russes vont mettre leur veto.
Voilà, donc en fait les deux Bulgares pourraient se neutraliser. Mais on ne sait jamais.
C'est passionnant.
Voilà. C'est tout à fait passionnant. Exactement. D'autant que on n'est pas sûr que ça. Normalement, ça devrait se décanter ce mois-ci, mais c'est pas sûr. Ça peut durer. Avec Kofi Annan, ça avait duré jusque la mi-décembre.
Ah oui.
Voilà.
Alors qu'il prenait ses fonctions le 1er janvier.
Voilà.
Donc,
exactement.
2 semaines plus tard.
Voilà. Suspense.
Reagan, vous avez tout compris de ce feuilleton onusien?
Vraiment, j'ai tout compris et je vous remercie pour vos réponses.
Eh bien, merci à Sophie Malibeau. Bonne journée à tous les deux.
Merci.
10h25 à Paris. On a en ligne un passionné d'astronomie. D'ailleurs, quand il nous appelle pour poser des questions, ce sont toujours des questions liées à la science. Mokhtar, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes au Sénégal, à Richartol exactement, vous nous écoutez sur les 94.3. On vous écoute, vous souhaitez-vous que l'on revienne sur la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne?
Oui, oui, effectivement, oui. La semaine dernière, l'Agence spatiale européenne a mis fin à la mission Rosetta en effectuant un crash contrôlé de la sonde sur la comète Curie. Et à ce propos, j'ai deux questions. Mm-hmm. Pourquoi avoir mis fin à la mission Rosetta? Et pour la deuxième question, est-ce que Rosetta a atteint ses objectifs?
Rosetta qui s'est écrasée effectivement vendredi dernier sur une comète située à quelques 600 000 kilomètres de la Terre. Bonjour
non,
Simon
un peu
Rosé.
Plus 700 un peu plus, 700 millions.
Ah oui, c'est 600, j'allais dire 600 millions. Non, non, c'est, oui, effectivement, 700 millions. Bonjour Simon.
Bonjour
Simon
Juan,
Rosé,
bonjour Mokhtar.
Spécialiste des questions scientifiques à RFI. Vous étiez d'ailleurs vendredi dans le centre opérationnel de l'Agence spatiale européenne. Vous avez pu assister aux dernières minutes de Rosetta. On a vu l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs plutôt émue lors du crash de Rosetta. Pourquoi donc mettre fin à cette mission? Est-ce que c'était vraiment nécessaire?
Oui, bah on l'a dit, la sonde Rosetta est loin de nous et elle est loin du Soleil également. Elle en est à peu plus de 573 millions de kilomètres. Et Rosetta, c'est une sonde qui est alimentée par des panneaux solaires. Ils sont énormes, ils font 15 mètres de long chacun. Mais à cette distance, la sonde ne recevait plus assez de lumière de la part du Soleil pour être alimentée en électricité. Donc il y avait deux options, soit on la laisse s'éloigner encore au gré de l'orbite de la comète, de Tchoury qui s'en éloignait de plus en plus, et elle allait finir par s'éteindre et dériver dans l'espace, ou alors, dans un dernier baroud d'honneur, faire cette opération audacieuse, dire « bon bah autant aller la faire se crasher sur la comète pour obtenir des données qu'on ne pourrait pas avoir sinon, parce que Rosetta n'a jamais volé à moins de 2 km d'altitude de la surface de Tchoury, de la comète. Mm-hmm. Là, c'était l'occasion d'avoir des données à 50 mètres, 10 mètres, des choses qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, donc et emmagasiner le plus de science possible.
Ouais, on a souvent présenté Rosetta comme étant une mission qui pourrait apporter des réponses sur l'apparition de la vie sur Terre. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ?
Alors, il y a un peu de com' là-dedans de la part de l'Agence spatiale européenne pour vendre la mission auprès du grand public. Le but principal, c'était d'explorer une comète. Des astres qu'on connaît assez mal. Il y a eu quelques missions auparavant, notamment lorsque du dernier passage de la comète de Halley en 1987. Mais les comètes, ce sont des objets qui sont très intéressants parce qu'ils datent de 4,5 milliards, 5 milliards d'années. C'est le moment où le système solaire apparaît. Et ces comètes passent le plus clair de leur vie très très loin du Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune, dans des régions où il fait moins 230, moins 240 degrés. Donc elles n'ont pas bougé quasiment depuis la naissance du système solaire. Et elles ont gardé exactement la même composition.
Mais il y avait quoi, justement, à cette époque, il y a 4 milliards d'années, il y avait juste de la roche?
Alors, avant que le système solaire n'apparaisse, il y avait un nuage de gaz, de poussière énorme, mais vraiment gigantesque, qui fait de tête 100 fois la taille du système solaire actuel, qui s'est effondré. Il était tellement lourd, tellement massif, qu'il s'est effondré sur lui-même. Donc au centre de ce nuage, la température a chauffé à cause de la pression, et le Soleil s'est allumé au milieu. Et toutes les poussières qui tournaient autour se sont agglomérées pour former les planètes, les astéroïdes, les comètes, et tout ça. Et en fait, Rosetta, ce qu'elle nous a appris, c'est que en étudiant la comète, on a pu avoir la composition, en quelque sorte, de ce nuage de gaz primordial. Et c'est pas juste de la poussière, c'est pas juste des gaz simples. Rosetta, elle a trouvé plus de 60 types de molécules différentes. Alors dit comme ça, c'est un peu barbare. Elle a surtout trouvé des molécules, des arrangements d'atomes très complexes, notamment ce qu'on appelle des macromolécules organiques, c'est-à-dire de longues chaînes de molécules composées de carbone. Et ça, c'est super intéressant. Parce que notamment là-dedans, il y a de la glycine. Alors la glycine, vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est un acide aminé qu'on trouve, par exemple, dans votre ADN, dans mon ADN, dans la paroi de nos cellules, dans nos protéines. C'est un peu le squelette de l'ADN.
Donc on a appris des choses sur la vie.
Voilà, on a su que dès l'apparition du système solaire, il y avait des molécules très complexes qui existaient déjà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a la grande théorie, c'est que la vie sur Terre est apparue dans un laps de temps qui est très rapide. En quelques centaines de millions d'années, la Terre était formée, la vie était déjà là. Et on s'est toujours demandé comment ce phénomène, ce processus avait pu être aussi rapide. Et la théorie, en fait, c'est que les comètes contenant déjà des briques comme ça nécessaires à l'apparition de la vie, dès le début, en fait, on frappait la Terre dans sa jeunesse. On appelle cette période le grand bombardement. La Terre a été bombardé en permanence par des astéroïdes, par des comètes, et en fait, ce seraient les comètes qui auraient amené les éléments nécessaires pour que la vie apparaisse sur Terre.
Merci.
Donc, Rosetta nous donne par exemple ce genre de réponse, mais plein d'autres.
Plein d'autres, puisque la mission a collecté une masse énorme de données scientifiques.
Il y a eu 21 000 expériences, on en a analysé que 5%.
Et il va falloir évidemment examiner tout ça. Merci Simon Rosé, c'était passionnant comme à chaque fois.